Au début du XVIIe siècle, la Manche est infestée de pirates de toutes sortes, par faute en fait donc de garde-côtes efficaces et suite en fait aux guerres entre l'Angleterre et l'Espagne, notamment avec les Pays-Bas également. Donc des pirates de toutes sortes, tels que des Dunkerquois, des Anglais naturellement, et surtout des barbaresques. Certains ports anglais, tels Plymouth, sont accusés d'écouler des marchandises volées, et certains barbaresques s'aventurent dans la Manche. L'un d'entre eux, un certain Saliman, sera même capturé dans la Tamise, alors qu'il cherchait à attaquer Londres. Aussi, le 26 novembre 1626, Isaac de Razilly, un marin proche du cardinal de Richelieu, lui remet un mémoire dans lequel il expose la future politique navale sous le règne de Louis XIII. Et afin de protéger nos côtes et nos ports, il préconise la construction de deux types de navires conçus pour naviguer le long des côtes de Normandie. Alors donc, il préconise donc deux types de navires. Donc, le premier type de navire est en fait constitué de bâtiments de 200 à 300 tonneaux. Donc, ces bâtiments conçus pour naviguer le long des côtes de Normandie et pour protéger les côtes et également les ports, notamment dans l'estuaire de la Seine. Ils sont armés de 16 canons de 24 livres, dits de nouvelle fabrique, invention de Hollande. En fait, il s'agit donc de canons de Drake, des canons très utilisés également en Angleterre, dont on verra tout à l'heure leurs caractéristiques. Et 4 de ces canons sont placés à l'avant pour le tir en chasse. Le deuxième type de navire sont en fait des patraches de 120 tonneaux, qui ne sont armés que de 8 canons de 18 livres, également des canons de Drake, dont 2 seront placés à l'avant pour le tir en chasse. Et la particularité en fait de ces patraches, c'est qu'elles seront aussi équipées de grands avirons dits en forme de galéas, donc des avirons qui serviront de moteurs auxiliaires. Les missions de ces navires donc, est de secourir les places d'un port à l'autre, d'attaquer et de se retirer contre une armée navale afin d'obtenir un harcèlement de la flotte ennemie. Alors, une petite explication donc, de ce fameux canon de Drake quand on voit une grande utilisation de la marine anglaise. En fait, c'est des canons qui ont été inventés par les Hollandais au tout début du XVIIe siècle. C'est des canons qui sont chambrés, c'est-à-dire que l'âme présente une section plus faible à l'arrière du canon pour une charge de poudre plus réduite, naturellement. De fait, la vitesse du boulet est plus faible et entraîne de nombreux éclats dans les batteries ennemies, provoquant donc de nombreux morts ou blessant de nombreux matelots et servant des pièces de canon. De sorte que le bâtiment ne pouvant plus être manœuvré ou ne pouvant plus tirer en raison en fait donc de l'équipage qui est décimé, n'a plus qu'à se rendre. L'épaisseur du tube étant plus faible, le canon est aussi plus léger, environ un tiers à un quart par rapport à un canon habituel. Ce type de pièce sera très utilisé dans la marine anglaise sous le règne de Charles Ier. Par contre, en France, on n'en s'en servira pas, contrairement à ce que préconise Razilly. Alors, moins de 2 semaines après l'envoi du mémoire de Razilly, un marché pour la construction de 6 navires est établi le 10 décembre 1626 pour la somme de 45 000 livres. Et le même jour, Richelieu envoie à Razilly la somme de 26 000 livres afin de lancer son programme de construction. Ces bâtiments doivent être construits à Dieppe par Jacques Soulas et livrés à la fin juin. Le premier type, donc ces bâtiments qui ont une longueur de 60 pieds, donc 19,50 m, une largeur de 7,15 m et un creux de 2,27 m. Donc un faible creux pour pouvoir avoir un faible tir en dos, bien entendu. Les proportions sont assez étonnantes par contre. Ils ont une longueur de quille par rapport à la largeur de 2,7 et un creux par rapport à la largeur de 0,3. Donc c'est une coque qui est large et peu profonde, conçue pour naviguer dans des estuaires et patrouiller près des côtes. Et Isaac de Razilly précise en outre qu'elles vogueront avec de grands avirons en forme de galias. Partant, les susdits vaisseaux feront double effet et seront propres à secourir des places d'un port à l'autre. Elles pourront attaquer et se retirer contre une grande armée navale. Alors, les galéas, dont parle Razilly, nous renvoient directement à l'histoire maritime anglaise, qu'il est probable, en fait, que ces navires ont été influencés par certaines techniques de construction anglaise. Et on retrouve en Angleterre des navires qui sont assez similaires, qu'on appelle des Lion Whelps, qui sont construits à la même période, qui étaient des bâtiments également très larges et très profonds. Et il est très probable également que c'est des bâtiments qui ont été influencés également par la construction des fameuses romberges normandes de la fin du XVIe siècle. Donc en fait, ils se trouvent en terre inconnue et ils reproduisent ce qu'ils savent faire. Alors les fameuses galéas, hein, en 1545, donc là on se trouve sous le règne d'Henri VIII, à la fin du règne d'Henri VIII, des bâtiments plus fins et plus bas que les autres navires de guerre habituels furent construits afin de combattre les galères françaises. Ces bâtiments appelés galéas n'avaient aucun rapport avec leurs homologues méditerranéens. Il s'agissait de bâtiments rapides et fortement armés pour leur taille, propulsés à la voile et à la rame. Et on voit d'ailleurs les trous de rame qui sont au niveau donc de la batterie. Ce type de navires seront également très utilisés sous le règne des aides premières. On a même dans le fameux traité de Matthew Baker un plan d'une de ces galéas fortement armées. Alors, l'influence anglaise se retrouvait également dans ce contrat au niveau donc de l'indication du tonnage, où il précise en fait que le nombre de 6 vaisseaux de mer, savoir 4, dont chacun sera de 6-20 tonneaux de port, qui se pourra dire comptant tonnes et tonnage de 150 tonneaux. Cela correspond en fait à une caractéristique des calculs de jauge anglaise où on calculait donc d'une part le tonnage classique en multipliant le creux par la longueur des quilles et par la largeur, disons par 100, auquel on rajoutait environ un tiers pour faire du tons and tonnage, qui correspondait en fait à la capacité totale d'emport du navire, embarquement à la fois des marchandises, donc à l'époque c'était pas les marchandises, c'était en fait les canons, c'était les vivres et les munitions du navire ainsi que l'équipage, tandis que le tonnage correspond en fait plutôt à ce qui était d'emport pour un bâtiment de commerce, c'est uniquement la cargaison. Et il n'y a pratiquement que les Anglais et peut-être les Espagnols avec donc le tonnel macho qui utiliseront ce système de calcul de jauge. C'est pour ça que je pense en fait qu'il y a eu une grande influence anglaise pour ces premiers bâtiments qui ensuite vont se transformer. Donc ce sont des bâtiments qui ne comportent qu'un pont, qui ont au-dessus du pont supérieur un filet anti-abordage qui est placé à une hauteur donc de 5 pieds et demi. Ils disposent donc de environ 5 à 6 pièces de canon et des sabords de nage entre les pièces d'artillerie. Le filet anti-abordage est placé entre un guéard d'avant et un guéard d'arrière. À l'arrière, on va trouver naturellement la chambre du capitaine et au-dessus une petite dunette. Alors, le filet anti-abordage est en fait une invention ancienne qui remontait à l'époque médiévale, déjà largement utilisée au XVe siècle. Il est constitué en fait de cordes assemblées par des fils de carré en forme de filet et il est disposé sur une structure légère que l'on voit ici, placée au-dessus de l'ambelle. La structure se compose de pièces longitudinales appelées dalles de coursier qui sont placées entre le guéard d'avant et d'arrière. Les barotins reposent transversalement d'une part sur ces dalles de coursier et d'autre part sur ce qu'on appelle des macarons placés sur le bord du navire. Notamment, ce sont ces systèmes-là qui seront mis en place sur la fameuse Mary Rose. Et non seulement ces filets protégeaient l'équipage contre un abordage éventuel, mais également, lorsque le bâtiment coulait, avait le grand avantage, c'est de bloquer l'équipage pour l'empêcher de se sauver. Donc, on retrouvera d'ailleurs malheureusement quelques malheureux matelots qui seront bloqués par ce piège. Alors, la comparaison avec d'autres documents tels que des devis de Radoub, de Roi-Berge française de la fin du XVIe siècle, suggère la présence d'un gaillard d'arrière servant de chambre pour le capitaine, d'un gaillard d'avant et d'une petite dunette. Selon les listes d'armées navales, notamment celles datées de 1636, pour des bâtiments donc de 150 tonneaux, nous remarquons en fait que ces navires sont armés de 10 canons. 8 pièces de 8 livres en bronze et 2 pièces de 6 livres en fer. Donc, nous sommes très loin de l'armement préconisé par Razilly. Nous sommes en fait sur des pièces beaucoup plus légères, plus proches de l'armement en fait donc des futures frégates. Le bâtiment n'a qu'un pont, les sabords de nage sont naturellement disposés entre les sabords d'artillerie. Le fait que donc ce bâtiment dispose donc de rames ne signifie pas pour autant qu'il y avait des galériens à bord. C'était des rames utilisées par les matelots lors de calmes plats ou lorsqu'il fait manœuvrer rapidement dans un port. Alors, le second type de bâtiment est très différent. Il s'agit d'un bâtiment beaucoup plus grand et plus classique. C'est un bâtiment à deux ponts, d'une part, qui présente une longueur de quille de 22 mètres, une largeur de 8,12 mètres et un creux de 2,60 mètres. Et avec une hauteur d'entrepont de 1,79 mètres. Donc, une hauteur suffisante pour pouvoir manœuvrer l'artillerie. Là également, on se situe sur des proportions qui sont relativement importantes. Une longueur de quille largeur de 2,7 et un creux par rapport à la largeur de 0,3. Proportion très voisine du bâtiment précédent. Une coque large et également peu profonde, conçue pour naviguer près des côtes et dans les estuaires. Le contrat de construction ne donne aucune indication sur les aménagements intérieurs de ces bâtiments. Par contre, nous disposons donc de devis de Radoub, notamment celui de 1632, où plusieurs vaisseaux royaux vont faire l'objet donc de réparations. Et deux de ces navires de 200 tonneaux construits en 1627 et 1628, la Lyonne et la Salamandre, vont nous donner des indications précieuses sur les aménagements intérieurs. D'une part, ces deux bâtiments possèdent une chambre arrière pour le capitaine, avec une chambre à gouverner pour manœuvrer le gouvernail. Donc une chambre ici du capitaine, et ici à l'avant, donc une petite chambre où on peut manœuvrer le gouvernail à l'aide donc d'un dispositif qu'on appelle la manuelle. La chambre du capitaine est équipée de quatre cabanes à raison de deux l'une sur l'autre, sur chaque bord. Et la chambre à gouverner tout à l'avant possède également deux cabanes. Cette disposition est d'ailleurs analogue à la chambre à gouverner du Vasa. Donc là, on voit également l'emplacement où se trouvait le gouverneur, c'est en fait le matelot destiné à manœuvrer la barre de gouvernail. On voit ici la manuelle, donc le levier que l'on poussait pour orienter la barre de gouvernail à droite ou à gauche. Devant lui, on trouve l'habitacle où se trouvent donc les boussoles. Et voici ce qu'on appelle une cabane. Une cabane, en fait, c'est une sorte de petit réduit. D'après Blaise Olivier, c'est en fait une pièce qui fait 1,95 m de long, une hauteur de 1,20 m et une largeur de 0,98 m. On a juste la place de se glisser dedans pour dormir. Donc on imagine donc les aménagements spartiates, même de la chambre des capitaines, pour ces petits bâtiments. Naturellement, ce sont des éléments qui sont en bois léger, en sapin. Au-dessus de la chambre du capitaine, on va trouver une petite dunette donc destinée aux officiers. Naturellement, cette dunette comporte également deux cabanes sur chaque bord. Chaque cabane est équipée d'armoires, c'est-à-dire en fait des petits tiroirs destinés aux effets personnels de leur occupant. Les frontaux des chambres et des dunettes sont en planches de sapin. La chambre du capitaine est quand même dotée d'une couche en bois de chêne, d'une table et de deux bancs. Et toutes les chambres et cabanes ferment naturellement à clé. Alors, le devis de la Salamandre mentionne également l'existence d'une batterie d'avant de 5 hauteurs de planches, correspondant très probablement à un fronteau de coltis utilisé pour une batterie. Et donc là, on se retrouve sur la configuration préconisée par Razilly, à savoir 4 canons pouvant tirer en chasse. 2 placés au niveau de la batterie, placés tout à l'avant, et 2 placés au niveau donc, du pont supérieur, pouvant tirer à travers un fronteau de coltis. Alors, l'armement de ces bâtiments est composé de pièces de 12 livres et de 8 livres. L'un de ces navires, le Neptune, premier navire commandé par Abraham Duquesne, est armé de 2 canons de 12 livres en bronze, 4 canons de 8 livres en bronze, 8 canons de 8 livres en fer, armement complété par 6 pierriers. Alors, pourquoi ces bâtiments avaient un armement de chasse si important? En fait, cela correspond à une tactique de combat qui remonte à l'époque médiévale où l'on chargeait les adversaires avant l'abordage. Et voici donc comment, à l'époque, on attaquait une flotte ennemie. Donc, plusieurs documents anglais du début du XVIIe siècle nous donnent des informations sur les tactiques navales en vigueur en Europe. Donc, les vaisseaux doivent d'abord gagner au vent afin de charger l'ennemi au portant, donc vent arrière. Le premier navire attaque avec son artillerie de chasse. Ensuite, il va commencer à virer de bord et attaquer avec ses pièces des flancs, tandis que le navire qui le suit commence à attaquer avec ses pièces de chasse. Ensuite, le navire de tête décroche afin de recharger les pièces. À l'époque, il faut mettre beaucoup de temps pour recharger, vu qu'on n'a pas un équipage suffisant. Et pendant ce temps-là, les navires qui le suivent harcèlent l'ennemi à leur tour. Donc c'est un système de carrousel qui va se dérouler tout autour de la flotte ennemie afin de la harceler et de l'empêcher donc de manœuvrer correctement. Au nombre d'équipage, disons que si on a une dizaine de canons, on va avoir entre 50 et 70 hommes, qui est pas mal. Mais alors, malheureusement insuffisant pour manœuvrer rapidement ces pièces et pouvoir avoir un tir très rapide, comme on l'aura au XVIIIe siècle. D'où cette tactique où on fait un carrousel, on laisse le temps au navire de recharger. Il faudra attendre en fait la ligne de fil où on sera tout le temps en contact avec l'ennemi, où on sera obligé donc de renforcer les équipages des vaisseaux pour pouvoir avoir des tirs très rapides. Alors, 10 ans plus tard, nous observons la construction d'un autre type de navire qualifié de barque ou de frégate. Donc ici, on retrouve donc sur ce diagramme nos premiers vaisseaux. Donc des bâtiments qui sont larges avec un creux très faible. Ici, on retrouve donc ces nouveaux bâtiments qui sont naturellement beaucoup plus fins et qui ont augmenté au niveau de leur creux et qui sont intermédiaires entre ces premiers bâtiments qui sont encore proches des navires du XVIe siècle et les frégates de la marine de Louis XIV. Et par contre, j'ai comparé avec des navires anglais contemporains et ils sont en fait très proches. Alors, le plus ancien document mentionnant la construction d'une frégate date du 29 août 1637. Au début de ce contrat, le navire est appelé barque, comme l'on voit ici. Donc, pour bâtir une barque de 65 pieds de quille. Et par contre, à la fin du contrat, on voit apparaître un autre terme, c'est la dite frégate. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution dans les types de bâtiments. C'est qu'on part d'une barque de guerre, utilisée pour la course en Normandie, et pour aboutir en fait à un bâtiment qui est qualifié de frégate. Alors, ces frégates royales semblent être issues donc de barques armées, fréquemment construites au début du XVIIe siècle en Normandie pour des armements privés, probablement pour la course ou pour la piraterie. Car naturellement, si les Anglais fabriquaient la piraterie, les Normands et les Bretons ne s'en privaient pas non plus. Le père d'Abraham Buchan était connu pour pratiquer la piraterie à une échelle assez raisonnable. D'ailleurs, on retrouve donc des devis de radoub de certaines de ces barques de guerre, notamment une barque de 80 tonneaux, qui était armée de 6 sabords de chaque bord et qui était également équipée d'un pont volant pour se prémunir contre l'abordage. Donc, avec un petit bâtiment entièrement équipé pour la guerre. Alors, un devis, malheureusement non daté, mais correspondant probablement entre 1636 et 1638, donne des caractéristiques d'une de ces barques de guerre. C'est un bâtiment qui a une longueur et travée tambour donc de 26 mètres, une largeur de 6 mètres, un creux de 2,27 mètres, donc toujours un creux assez faible, un plat de varangue, donc des fonds qui sont assez larges, 2,44 mètres, soit les 2/5 de la largeur, une largeur à l'arrière, à l'hélice d'ourdique, encore assez étroite, correspondant à 3,57 mètres, une hauteur de vibord assez importante de 1,14 mètres, pour faire jouer le canon, comme indique le contrat. Le navire possède une chambre gouvernée ici, avec une plateforme pour faire la chambre du capitaine par-dessus. Donc, ce qui indique des aménagements arrière assez importants. Cela indique en fait que ce bâtiment devait avoir des châteaux arrière assez élevés pour un bâtiment aussi modeste. Et il nous semble en fait que ce devis n'ait pas été retenu, probablement en raison donc de ces œuvres mortes trop importantes. Par contre, cela donne une silhouette que l'on retrouve sur certains graffitis de navires, notamment ceux que m'a présenté Vincent Carpentier lorsqu'il a pu faire certains relevés. Donc voici ce que devait être ce bâtiment. Donc un bâtiment qui est armé donc de 6 canons de chaque bord, qui présente un gaillard d'arrière assez élevé, pas de gaillard d'avant, mais par contre des élancements avant et arrière très importants, caractéristiques des vaisseaux de cette époque, des élancements qui sont pratiquement égaux au tiers de la largeur de la quille, et avec un éperon, ce qu'ils appelaient à l'époque un avantage, très long, pratiquement égal au cinquième de la longueur de la quille. Donc, à partir de cette date, nous retrouverons donc la construction fréquente de frégates en Normandie. Et la première de ces frégates est construite par Raoulin le Chevalier au Havre, à partir d'un contrat daté du 29 août 1637. C'est un bâtiment assez modeste, qui a une longueur entre trave et tambour donc de 26 mètres, une largeur donc de 6,50 mètres et un creux de 2,50 mètres. Et il ne possède qu'une seule chambre, donc déjà on cherche à réduire les œuvres mortes, qui servira à la fois à gouverner et pour la capitaine. Il est très probable en fait que ce bâtiment devait être manœuvré à barre franche, le gouvernail remontant jusqu'à ce niveau-là, et ici une barre franche au-dessus de la chambre du capitaine. La forme du maître-coupe devait être assez voisine de celui du devis précédent, avec un maîtresse-varangue assez longue. Ce modèle de frégate se développe, et d'autres bâtiments de ce type sont construits en Normandie à partir de cette date. Donc un bâtiment assez bas, et certainement assez rapide. À partir de ce bâtiment, on va construire des frégates de plus en plus grandes, telles la frégate construite le 23 octobre 1638 par Raoulin le Chevalier à Honfleur. C'est un bâtiment qui fait maintenant 28 mètres de long, une largeur de 7 mètres et avec un creux de 2,92 mètres. La chambre possède une chambre au canonnier qui servira à gouverner, donc pour manœuvrer la barre du gouvernail, Au-dessus, on va trouver la chambre du capitaine, une soute à pain placée sous la chambre au canonnier, et au-dessous, une soute aux poudres. Donc, déjà, des aménagements qui sont très proches de ce que l'on retrouvera à la fin du XVIIe siècle et même au XVIIIe siècle. Donc, déjà, on se met en place des pratiques que l'on retrouvera dans toute la marine française pendant toute la partie de l'époque moderne. Par contre, au centre, on retrouve donc des pratiques qui remontent au XVIe siècle. On aura à fond de cale une cuisine à la façon de Hollande, donc telle qu'on en a également sur le Vasa, donc placée à fond de cale. Cette pratique était assez courante pour les bâtiments du XVIe siècle, mais n'était pas très appréciée, notamment pour les Anglais, qui considéraient en fait que cet emplacement enfumait le bâtiment plus qu'autre chose. On faisait du feu à fond de cale. Oui. Et pour couronner le tout, on va trouver à côté de la cuisine deux cabanes, l'une pour le chirurgien et l'autre pour le cuisinier. Ce qui montre bien que les deux professions devaient être assez voisines à l'époque. Alors, le devis précise également que les sabords seront percés en égale distance les unes des autres, et de même hauteur de seuil, et percés en sorte que les chintes, donc les précintes, ne soient coupées ni en avant ni en arrière. Alors là, on a une indication qui est assez ténue, mais très précise. Il indique en fait donc des pratiques courantes à l'époque. C'est d'une part, on veut éviter d'avoir les précintes qui soient coupées, pour peur d'affaiblir la structure du navire. Et d'autre part, ils veulent que les sabords soient à la même hauteur par rapport au pont. Alors cela correspond en fait à des pratiques qui remontent au XVIe siècle, comme l'on voit sur ces dessins que j'ai reconstitués à partir donc d'un traité anglais de la fin du XVIe siècle, le traité Matthew Baker, où l'on voit en fait que les sabords suivent les précintes au lieu de les couper, ce qui a pour conséquence c'est que la hauteur donc entre le sabord et le pont augmente progressivement. Et les constructeurs n'avaient d'autre choix que de placer des plateformes sur le pont afin donc de réduire cette hauteur et de garder une hauteur constante. Autre méthode que l'on trouvera sur le Vasa, c'est de réaliser des affûts qui sont spécifiques à chaque canon et qui vont augmenter en hauteur. Donc là, on se rend compte que ce sont des pratiques qui sont nuisibles au bon fonctionnement de l'artillerie et déjà, donc, les Français demandent à ce que l'on empêche cette méthode de construction. Mais par contre, ils ne veulent absolument pas que l'on coupe les précintes. Ce qui provoquait en fait des coupies, c'est qu'à un moment donné, cette hauteur étant trop importante, on va pratiquer une rupture dans le pont et redescendre le sabord sous la précinte. Alors voici donc le navire entièrement reconstitué, donc navire qui est assez bas, malgré en fait les deux étages au niveau du gaillard d'arrière. Toujours cet éperon à l'avant et également donc un armement assez conséquent d'une dizaine de pièces de chaque bord. Le gréement est carré et on verra quelques exemples de gréement sur des graffitis plus tard. Il y a naturellement la voile latine qui est l'artimon. En fait, le gréement de ces bâtiments est un gréement classique de vaisseau de cette époque. Alors naturellement, le devis précise qu'il y aura des sabords d'avant qui seront percés pour battre droit devant. Donc toujours cette idée de placer donc des canons très en avant pour pouvoir attaquer les navires par l'avant, donc en chargeant l'ennemi. Alors, cette importance du tir en chasse pour une frégate s'explique également par les missions auxquelles elle était destinée. Prendre en chasse d'éventuels pirates ou corsaires ennemis et pouvoir, au besoin, les atteindre lors de cette chasse pour les désemparer ou pour les intimider et les obliger à se rendre. La coque est naturellement renforcée par plusieurs précintes assez puissantes, dont les plus importantes sont placées sous les sabords. Et on remarque également le long éperon placé à l'avant, qui caractéristique des vaisseaux de cette époque, début du XVIIe siècle. Alors cet éperon servait à plusieurs choses. D'une part, à manœuvrer les voiles de l'avant, comme l'on voit sous sa reconstitution donc, du Batavia datant du début du XVIIe siècle. On voit ici donc, les cordages permettant de manœuvrer les voiles de la Misaine et les voiles du Beaupré. Et ça servait également de latrine à l'équipage. Et lors du mauvais temps également, de douche. En fait, il y avait un caillebotis qui allait en fait donc, depuis l'étrave jusqu'à l'extrémité arrière, c'est tout. Et en dessous, c'est la mer. On peut pas, avec ça, on ne peut pas y prendre. D'ailleurs, c'était des structures qui étaient très fragiles et qui étaient souvent emportées lors de tempêtes ou lors de combats. Notamment, on a des superbes dessins de Van de Velde qui montrent des vaisseaux hollandais après le combat. Et on voit souvent en fait que l'éperon est tout le temps arasé. Alors, un autre type de frégate, beaucoup plus petite, est décrite dans un contrat du 13 août 1642. Bâtiment donc de 60 tonneaux, également construite par Raoulin le Chevalier au Havre. Raoulin le Chevalier, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, était donc l'un des grands constructeurs de la marine de Louis XIII, et qu'en fait un constructeur qui était entièrement au service du roi de Louis XIII. Alors, la fonction de ce petit bâtiment est clairement indiquée. Il servir de barque d'avis et de garde-côte au port du Havre. Le bâtiment est également qualifié de frégate vers la fin du contrat. Alors, selon le dictionnaire d'Aubin de 1702, une barque d'avis est employée pour transmettre des nouvelles, soit un vaisseau éloigné, soit d'un vaisseau à un autre. Par contre, les garde-côtes sont des vaisseaux de guerre qu'on fait croiser sur les côtes pour tenir le commerce de la mer libre contre les insultes des corsaires et servir d'escorte aux marchands, navires marchands. Alors, c'est un bâtiment de petite taille, hein, qui est en fait beaucoup plus réduit que les bâtiments précédents. Il n'a qu'une longueur de 20 mètres, une largeur de 5,20 m et un creux d'1,95 m. Il ne possède qu'un pont et une batterie. Donc, une chambre pour le capitaine placée à l'arrière, et naturellement, c'est un bâtiment qui est manœuvré à barre franche. Il dispose donc de 4 pièces par bord, avec des sabords de nage entre les pièces d'artillerie. Tout à fait classique pour des barques d'avis, pouvant manœuvrer par tous les temps. Alors, on a quelques indications sur en fait, les rames utilisées par ces petites barques d'avis, notamment dans des devis de garde-côte construits par les Hollandais en 1739 dans les chantiers d'Indrette. Donc, voici donc, les caractéristiques de ces petites frégates de côte. Donc, deux types de bâtiments comme précédemment. Donc, un premier type à deux ponts avec une seule batterie, de 28 mètres de long, de 7,36 mètres de large avec un creux de 3 mètres, dotant un entrepont de 1,70 m. Et le deuxième type avec un seul pont et pouvant utiliser des rames. Donc, le même type que les hirondelles. Avec un bâtiment de 22 mètres, hein, 5,66 m de largeur et un creux de 2,41 m. Par contre, c'est des bâtiments qui sont beaucoup plus fins que les premières hirondelles. Et il précise en fait que l'on conduira le plat-bord en sorte qu'on puisse ramer facilement. Ils sont équipés de 36 rames d'une longueur de 24 pieds, donc de 7,80 m, qui sont construites en biscaye, donc dans le Pays Basque. Il y en a en fait pratiquement 18 à chaque bord. À mon avis, c'était des bâtiments qui étaient... Vous voyez, ils ont un creux de 2,41 m. Et 24 pieds, j'ai regardé donc par rapport aux mémoires des galères, c'est pratiquement une rame de galère. Un peu plus petite, mais c'est une petite galère, mais c'est déjà une rame très importante, qui était manœuvrée par 3 ou 4 hommes. Alors en fait, on se rend compte que ces deux types de frégates, garde-côte, sont déjà les types de frégates que l'on va retrouver sous le règne de Louis XIV. On retrouve une part la frégate à deux ponts, qui va se développer sous Louis XIV pour devenir ce qu'on appelle donc des frégates vaisseaux à deux ponts et à deux batteries. Et d'autre part, la petite frégate à un seul pont et utilisant également des avirons, qui va devenir en fait la frégate légère à un seul pont et avec une seule batterie. Alors malheureusement, très peu de représentations de ces petits navires nous sont parvenues, parce que c'était des bâtiments en fait qui n'étaient pas prestigieux et on ne voyait pas la nécessité en fait donc de faire des représentations par des peintres, notamment les peintres hollandais. Par contre, les marins, eux, s'y sont intéressés et ont reproduit les navires sur lesquels ils naviguaient. Ce petit graffiti se trouve dans l'église de Quillebeuf et représente probablement l'une des premières frégates garde-côte. On retrouve très bien l'éperon à l'avant, assez important, un bâtiment qui est gréé à trois mâts, le Beaupré avec le matelot de Beaupré caractéristique donc du XVIIe siècle, un gaillard d'avant, un gaillard d'arrière et une dunette. Et on voit entre le gaillard d'avant et le gaillard d'arrière une structure placée au-dessus, soutenue par des petits barreautins, et qui correspond très probablement en fait à ce pont volant ou à ce filet anti-bordage que l'on trouve décrit dans les premiers contrats. Alors naturellement, la mâture est à deux étages, donc un bas-mât pour la grand voile et un mât de hune pour le hunier. Pareil pour le mât de misaine. Et à l'arrière, en fait, on a un mât avec une seule voile latine, la voile d'Artimon. Et on remarque ici une petite gabie pour un homme de veille. Donc, il peut correspondre naturellement à cette mission de garde-côte où, en fait, on plaçait donc des hommes de garde sur tous les mâts pour bien surveiller l'espace autour de lui et repérer donc le moindre corsaire, le moindre ennemi qui pouvait l'attaquer. Autre type de frégate, par contre, qui se trouve donc dans le clocher de l'église Saint-Jacques de Dieppe, où l'on a également construit ces fameux garde-côtes. Donc, un bâtiment déjà plus important, qui correspond probablement, en fait, à la deuxième série de frégates garde-côtes, avec une batterie complète. On remarque que l'on trouve également quelques canons au niveau des gardes arrière, qui commencent à s'armer. Et ici, on retrouve la galerie qui a une forme hollandaise, d'où cette influence de la Hollande dans notre marine, qui se retrouve même dans la décoration. On a toujours trois mâts avec deux étages de voile. Et ici, une voile supplémentaire qui est le perroquet de fougue qui apparaît à cette époque-là. On retrouve naturellement notre Beaupré avec le mât de Beaupré et cet éperon extrêmement long et extrêmement fin, caractéristique donc de cette marine de la première moitié du XVIIe siècle. Alors maintenant, nous sommes tellement intéressés à l'organisation de ces garde-côtes. Parce qu'il est bien gentil de construire des navires, mais il faut également savoir comment on va les utiliser. Alors, la côte du Ponant a été divisée en trois grands secteurs, depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Calais. Alors, on trouve d'abord le garde-côte de Guyenne, depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'au Conquet. Donc, une grande zone à patrouiller, qui est également subdivisée par l'estuaire de la Loire, où on aura en fait un brigantin qui gardera l'embouchure de la Loire, les îles de Watt, Édic, Belle-Île et l'île-Dieu. Tout cela pour une raison très simple, c'est qu'il y avait à cet endroit-là, près de Nantes, un arsenal important sous le règne de Richelieu, c'est l'arsenal d'Andrette. On construit en fait nos plus grands vaisseaux à cette époque-là. Ensuite, on a la garde-côte de Bretagne depuis la pointe du Raz, donc il y a un petit chevauchement, jusqu'à Saint-Malo, et le garde-côte de Normandie depuis Saint-Malo jusqu'à Calais. Chaque garde-côte est maître dans sa zone de patrouille. Si par exemple le garde-côte de Normandie pénètre dans le secteur de Bretagne, il devra obéir aux ordres du garde-côte de Bretagne, réciproquement.
Vous avez une idée du nombre total d'unités qui pouvaient
être... Nous en viendrons tout à l'heure. Durant leur service, les navires ne pourront rentrer au port que pour se ravitailler ou déposer des ennemis. Naturellement, ces garde-côtes ont pour mission principale d'escorter et d'assister les navires marchands et de les protéger de toute attaque. Alors, pour en venir donc à la question donc d'André, donc les quelques documents comptables qui nous sont parvenus pour cette marine de Richelieu nous fournissent quelques informations sur les navires impliqués dans ces missions de garde-côtes. Et l'un de ces documents comptables, notamment celui de 1632, est l'un des plus complets. Donc, durant toute l'année 1632, nous trouvons un vaisseau et une patache affectés à la surveillance de la rivière de Bayonne et des côtes environnantes afin de les protéger contre les attaques des pirates basques, qui était donc une pratique très courante par les navires basques depuis au moins le XVe siècle.
Les basques espagnols.
Les basques espagnols, oui. Probablement, bien entendu. Les Basques français étaient des gens très gentils, comme chacun sait. Nous trouvons également trois vaisseaux dragons garde-côte et trois patachas à voile et à rames, donc les fameuses hirondelles, affectées à la surveillance des côtes durant 6 mois. Cette flottille devait probablement se répartir en un vaisseau et une patache par secteur. Ces bâtiments devaient correspondre aux vaisseaux de 200 tonneaux à deux ponts et une batterie et aux patachas de 120 tonneaux nouvellement construite sur les instructions donc des actes de Razilly. On trouve également trois vaisseaux affectés à ces patrouilles. D'une part, le vaisseau Le Corail de 500 tonneaux armé de 30 canons, affecté à la garde des côtes donc du 27 janvier au 29 juin, soit durant 5 mois. Le vaisseau L'Hermine de 250 tonneaux armé de 14 canons, du 1er juillet au 31 octobre, soit durant 4 mois. Et le vaisseau La Sainte-Marie du port de 200 tonneaux appartenant à l'armée du Levant, est en mer du 19 janvier au 31 octobre, soit 9 mois. Au total, nous trouvons 7 vaisseaux et 4 patachas affectés aux missions de garde-côte durant l'armée 1632. Alors, afin de lutter contre l'insécurité régnant le long des côtes de France, nous voyons en fait que Richelieu, sous les conseils avisés des actes de Razilly, met en place une politique navale dans laquelle la Normandie joue un rôle essentiel. Les constructeurs normands réalisent un nouveau type de bâtiment appelé frégate, conçu pour la protection des ports et des côtes. L'origine de cette frégate remonte probablement à un petit bâtiment du début du XVIIe siècle et destiné à la course. Ainsi, Richelieu développe et perfectionne le même type de navire que ceux des pirates afin de mieux les combattre et les éliminer. Dès la fin du règne de Louis XIII, deux types de frégates sont en service. L'une d'assez grande taille est destinée à la protection des côtes et du commerce, et l'autre de plus faible dimension pouvant être propulsée à la rame, appelée barque d'avis. Ces deux types de frégates se développeront sous le règne de Louis XIV et aboutiront d'une part aux frégates vaisseaux à deux ponts et d'autre part aux frégates légères à un pont, ancêtres des futures frégates modernes du XVIIIe siècle. Je vous remercie.